WhatsApp, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant M de la semaine.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
On a vu quoi ces derniers mois? On a vu le quotidien de référence en France, Le Monde, lâché par l'un de ses actionnaires, le banquier Mathieu Pigas, qui a revendu une partie de ses actifs à un milliardaire tchèque. À l'autre bout du spectre, on a vu Le Média, site d'info d'obédience mélenchoniste, se lancer avec force dons individuels, puis se cracher dans d'affreuses querelles de cofondateurs, puis de directeurs, sordides affaires d'opacité gestionnaire à la clé. Entre les deux, Mediapart, créé en 2008, est devenu profitable, a promis qu'il ne serait jamais racheté par un industriel fortuné et qu'il ferait mieux que d'appartenir seulement à ses donateurs ou à ses salariés. Ce média indépendant va devenir la propriété d'une fondation à but non lucratif, Éclairage.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
L'Instant M, une émission réalisée chaque jour par Anne-Cécile Perrin, préparée par Marion Philippe et Redouane Tella. Mon invité du jour est cofondateur de Mediapart, car ils sont plusieurs. Bonjour Edouard Plenel.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur France Inter. À vos côtés, Bruno Donnet, comme chaque vendredi, qui s'est brûlé les yeux devant la télé, hein, et cramé les oreilles. Voilà. Mais le vendredi matin, il y a Madeleine et vos mails qui arrivent avec force malice à l'Instant M à radiofrance.com. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous aurons deux gagnants à qui j'ai le plaisir d'offrir Oli, le podcast génial de Léonard Biot qui fait écrire et lire des contes pour les enfants à toutes sortes d'artistes et de personnalités. Ils sont devenus ces contes de jolis livres illustrés. Alors, pour les remporter, vous devez m'envoyer le nom de cette speakerine de l'ORTF, attention, hein, ça ne date pas d'hier, qui avait enregistré un album entier où elle récitait des recettes de cuisine.
Je lis la sauce à point en y ajoutant progressivement de la fécule de maïs déléguée dans un peu d'eau. Et j'en nappe les quartiers de pintado et les bananes fondantes.
L'Instant M à radiofrance.com si vous l'avez reconnu. Cette semaine, Bruno Donnet, vous vous êtes astreint à un travail très pénible puisque vous avez regardé pour nous la nouvelle émission d'Éric Zemmour sur CNews. Non, pas une fois, mais carrément tous les jours. Et vous avez été frappé par, en fait, la vacuité abyssale d'abord de ce que vous avez vu.
Oui, alors pour faire simple, Sonia, l'émission de Zemmour, on pourrait la résumer d'une formule, c'est l'émission 100. D'abord parce qu'elle a été accueillie sans enthousiasme, notamment par celle qui présente la tranche qui la précède. Écoutez donc le magnifique lapsus qui est sorti de la bouche de Laurence Ferrari lundi, au moment de passer l'antenne à celle qui est chargée d'animer le bastringue.
Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour cette nouvelle émission Face à l'info.
Eh oui, Laurence Ferrari associe plus facilement Zemmour à une affaire qu'à la télévision, probablement. Hey. Parce que contrairement à ses patrons, elle se souvient qu'il a été condamné par la justice pour provocation à la haine raciale. Bon, c'est également une émission sans publicité, il n'y a pas de coupure, hein, ni avant, ni pendant, ni après, tout simplement parce qu'elle est fabriquée sans annonceur, ce qui explique peut-être que celle qui la présente a affirmé un peu malgré elle que c'est une émission sans lendemain. Écoutez-la lundi, le jour où son inconscient aurait payé cher pour que son talk show zémourien, pourtant quotidien, ne soit plus qu'hebdomadaire.
Face à l'info, ce soir, bienvenue à tous, tous les lundis, 19h-20h, ici, sur CNews.
Voilà, c'est tous les jours et pas tous les lundis. Allez, j'arrête avec les lapsus, car ce qu'il y a de plus révélateur dans ce que j'ai vu, c'est avant tout qu'il s'agit d'une émission sans queue ni tête et surtout sans travail. Zemmour n'en glande pas une et se contente de dire aux trois journalistes qui lui servent de faire valoir qu'il n'est pas d'accord avec eux. En fait, le principe est un peu plus simple, hein. L'émission de Zemmour, c'est le café du commerce, sauf que là, c'est le patron qui est bourré essentiellement de ressentiment à l'égard de tout et de tout le monde, car l'autre marque de fabrique du machin, c'est que c'est un programme sans filtre, dans lequel, qui que vous soyez, vous vous faites allègrement et quotidiennement insulter. Lundi, tout voile dehors, Zemmour a donc dégueulé sur les musulmans.
L'islam est une organisation totalitaire.
Mardi, il a vomi sur les familles homosexuelles et monoparentales.
La famille, déjà, c'est pas des familles. Excusez-moi, pour moi, une famille, c'est un père, une mère et des enfants. Tout le reste, c'est des fausses familles.
Bah voyons. Et mercredi, après que l'un de ses voisins de comptoir a émis un avis définitif sur l'art contemporain, il a éructé sur tous ceux que ça émeut.
C'est vrai que c'est élitiste, cet art contemporain. Oui, c'est élitiste.
Oui, oui. Vous ne croyez pas que c'est élitiste parce que c'est moche ?
Voilà. Alors, bien sûr, si tout cela est possible, c'est également parce que celle qui présente cette gigantesque farce, Christine Kelly, est aussi totalement son complexe. Voilà pourquoi, mardi, elle n'a pas hésité à expliquer à son camarade Cyril Hanouna que ce qu'on a entendu cette semaine dans son troquet, eh ben, c'est de la petite bière par rapport à ce qui nous attend.
Vous prendriez Dieudonné en face d'Éric Zemmour ?
Mais pourquoi pas ?
Ah oui.
Allez hop, Dieudonné face à Zemmour, pourquoi pas dans la voix de celle qui fut membre du CSA et dont l'une des missions était de rappeler aux chaînes de télévision que les conventions qui leur permettent d'émettre stipulent qu'elles ne doivent pas encourager les comportements discriminatoires. Vous avouerez que ça manque pas de sel. Alors, que l'on se rassure, hein, cette émission 100 devrait normalement se dérouler aussi sans attirer les foules. CNews a en effet déjà perdu 100 000 téléspectateurs entre lundi et les jours suivants. Néanmoins, on aura tout de même ici une petite pensée confraternelle pour tous les journalistes du groupe Canal+, qui ont manifesté leur vive désapprobation, mais qui, pour l'heure, ont obtenu pour seule réponse de leur direction un gigantesque bras d'honneur traduit par une invitation à faire avec.
Avec, c'est ça. Merci Bruno Donné. À réécouter sur franceinter.fr. En attendant, je félicite nos deux gagnants du jour, nos deux auditeurs. Arrivé en première position, Christian. Arrivé en seconde position, Catherine. Bravo à tous les deux. Vous avez reconnu notre très chère Anne-Marie Pesson. Elle avait enregistré, à l'époque de l'ORTF, un album qui s'intitulait « Régalez-vous en 12 recettes de musique ».
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, est mon invité ce matin dans l'Instant M. Chose promise, chose faite, non pas après 7 ans, mais 5 ans de réflexion. Mediapart transfère 100% de son capital à une fondation à but non lucratif. Une presse ne vivant que du soutien de ses lecteurs, rappelez-vous Edoui Plenel, ainsi que vos cofondateurs dans un texte que vous avez publié sur le site, sans recettes publicitaires ni subventions étatiques. Sa dimension économique est mésestimée. Hein, on parle souvent de votre impact journalistique, pas de votre modèle économique.
Oui, l'aventure de Mediapart, c'est évidemment de défendre un journaliste de qualité, mais on n'est pas les seuls. L'aspect vraiment particulier, c'est dans le moment de crise de notre métier, de redonner du courage à tout le monde, en montrant qu'en faisant simplement du journalisme, on peut faire une entreprise rentable, profitable, créer des emplois. On était 25 au début, maintenant nous sommes 90. Et à partir de cette rentabilité, construire, c'est ce que nous avons fait, un modèle totalement inédit, pour pas seulement défendre l'indépendance et éditorial, j'espère que partout on le fait, mais pour rendre éternel, irréversible notre indépendance économique.
Alors il faut commencer par expliquer à qui appartient Mediapart jusqu'à présent, hein, puisque évidemment tout va changer.
L'indépendance économique de Mediapart au départ était garantie par la qualité de ses propriétaires qui contrôlaient la majorité de son capital, en l'occurrence les quatre cofondateurs, 42%.
Voilà. On va les citer, François Bonnet, Laurent Mauduit, vous-même, Edoui Plenel et Marie-Hélène Smiedjan. On peut dire aussi que vous avez tous passé la barre des 60 ans. Est-ce que c'est ça aussi qui vous...
Bien sûr, c'est la transmission dans tout ça. D'ailleurs, de fait, aujourd'hui, Mediapart, au jour le jour, est dirigé par des gens qui ont la quarantaine. Ouais. Nous, on est un peu la clé de voûte, mais la transmission est en cours. Et donc, il y a ces quatre cofondateurs, il y avait une société des amis, bref, un bloc d'indépendance qui contrôlait un peu plus de 60% du capital.
J'aimerais qu'on revienne sur cette société des amis de Mediapart, parce que c'est une kyrielle de petits actionnaires ou de petits fondateurs. Mediapart est une société qui n'a jamais versé de dividendes, ça aussi, il faut l'expliquer.
Bien sûr, Mediapart pour nous, c'était une évidence. Il ne s'agissait pas d'enrichir des actionnaires, il s'agissait d'abord de créer de la valeur. Mediapart réinvestit 1 million chaque année dans la création d'emplois, dans le développement de nouveaux contenus. Et les amis qui nous ont accompagnés, 88 sociétaires de cette société des amis, qui est présidée par un mathématicien, Michel Brouet, donc quelqu'un qui est très loin de tous les fils à la pâte et autres
milieux dans les économiques. Amis, il y a aussi un Xavier Niel qu'on a souvent cité.
Il y a
cité.
88 personnes, parmi lesquelles, à l'époque, Xavier Niel et d'autres, qui n'étaient pas le monsieur d'aujourd'hui. Hein, Xavier Niel était à l'époque une sorte d'outsider, qui était simplement un fournisseur d'accès Internet. Il n'avait pas fait cette bascule qui en a fait l'oligarque milliardaire qu'il est, avec la téléphonie mobile.
D'ailleurs, et par ailleurs, propriétaire du Monde
à titre
personnel.
Voilà, et de fait, propriétaire du Monde et autres. Donc, il faut se remettre dans le contexte de 2007. Donc tous ces, aucun de ces amis n'a de contrôle sur Mediapart. Hein, le seul qui les représentait, c'était le président de la Société des Amis. Mais je reviens sur notre projet. Depuis le début, nous, notre projet, c'était pas de vendre au plus offrant Mediapart, c'était pas de le léguer à nos enfants, et c'était pas de
pourquoi
répéter.
Pourquoi pas?
Ben, pourquoi pas? Parce que nous, on veut défendre l'indépendance. C'est pas une histoire patrimoniale. Mm-hmm. Nous sommes journalistes. Nous voulons défendre l'indépendance du journalisme. Et surtout, on avait un casse-tête, c'est ne pas répéter les erreurs du passé. Fondateurs du Mediapart, nous venons des crises du Monde et de Libération. Mm-hmm. Dans le paysage médiatique, et je crois que c'était utile à tout le monde, depuis la guerre, depuis la Libération, il y avait des journaux contrôlés au niveau économique par leurs équipes. Les crises économiques font que ces sociétés d'actionnaires...
En premier lieu, Le Monde et Libération.
Ensuite, les crises économiques font que ça n'a pas résisté à la crise. Quand il y a la crise, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des affaiblissements, et de fait, aujourd'hui, parce qu'il faut quand même prendre conscience de ça, l'ensemble des médias privés dans notre pays sont sous le contrôle d'intérêts économiques extérieurs au métier de l'information. Et là, il y avait un défi dont je voudrais rappeler l'histoire pour ceux qui nous écoutent. Vous savez, le Conseil national de la Résistance, qui est rassemblé des gaullistes aux communistes, avait mis comme enjeu qu'il fallait, pour l'établissement de la démocratie la plus large, donc une presse vivante, il fallait que ça passe par, guillemets, son indépendance à l'égard des puissances d'argent. Ce à quoi Albert Camus, le futur prix Nobel de littérature, journaliste à combat, journaliste vedette de combat, ajoutait, et ce n'était pourtant pas un gauchiste échevelé, toute réforme morale de la presse serait vaine si elle ne s'accompagnait pas de mesures politiques propres à garantir aux journaux une indépendance réelle vis-à-vis du capital. C'est ça qu'on a voulu inventer avec notre solution totalement inédite, dont j'espère qu'elle fera école.
Alors, et tout ça a mis un petit peu de temps, hein, c'est 5 années de réflexion, je l'ai dit, dont 3 années très actives qui viennent de s'achever. C'est passé par un bilan critique, dites-vous, des expériences faites chez vos confrères, pardonnez-moi. On va commencer peut-être par les sociétés coopératives, dites SCOP, qui ont été souvent vouées à l'échec, sauf peut-être chez vos confrères d'alternatives économiques qui réussissent ce pari de tenir en SCOP, en coopérative de salariés, depuis 1984. Qu'est-ce qui fait que ça échoue, formidablement démocratique?
Nous avons en fait fait tout ça en le partageant avec l'équipe. On a fait ce qu'on appelle un comité ad hoc. Oui. Et c'est pas les fondateurs qui ont décidé tout seuls. Oui. Tout ça a été un processus collectif avec un vote de l'équipe où à 93,4% des exprimés, l'équipe a adopté ce projet. Et dans ce comité, nous avons audité les gens des SCOP. Ils sont venus. On a discuté avec eux. Mm-hmm. Alors nous, on est un quotidien. On est la presse d'information politique et générale. Autant, je crois, le modèle des SCOP peut marcher, alternative économique, c'est une petite équipe autour d'un mensuel. Autant, dans le cadre de la presse quotidienne, et on a un exemple célèbre, c'est le courrier Picard.
Absolument.
Quand la crise économique arrive, un homme, une voix, ou une femme, une voix, on voit de la même manière, et ils nous l'ont reconnu, les SCOP ne préserve pas des enjeux de pouvoir en cas de crise économique. Notre but, c'était pas seulement de sanctuariser le capital de Mediapart, c'est de trouver une solution où on peut faire des réserves financières qui, en cas de difficulté économique, viennent au secours de la maison, en lui permettant de passer une nouvelle révolution industrielle, un nouveau moment de difficulté dans le paysage médiatique, sans que ces difficultés ne créent des enjeux de pouvoir, des batailles internes.
On va s'expliquer. C'est-à-dire que quand un journal est détenu par une société par action, quand il manque de l'argent, en fait, c'est la personne, ça peut être un milliardaire extérieur, ça peut être une société, ça peut être un fonds de pension, c'est la personne qui va venir recapitaliser le journal, qui va racheter une partie des actions et qui va se retrouver à prendre le pouvoir.
Donc il n'y a pas de contre-coup. Je l'ai vécu. J'ai quitté Le Monde après avoir perdu une bataille au sein de la Société des rédacteurs du Monde. On a vendu au Monde qu'il fallait absolument une recapitalisation pour faire face à cette crise. Donc, s'ouvrir au diable. J'ai dit non, nous ne sommes pas au bord du dépôt de bilan, ce n'est pas vrai, nous pouvons nous adresser aux lecteurs. J'ai eu 36% des voix. J'ai perdu.
Oui.
J'ai perdu. Et à ce moment-là, la suite était là. J'ai dit à l'équipe,
c'est l'histoire de Libération
aussi. Vous allez voir, vous allez être vendus. c'est ce qui s'est passé. Donc nous, nous ne voulons pas rééditer ça.
Et Libération qui est passée de main en main.
Ensuite.
Chaque personne qui a accepté de perdre de l'argent au capital de Libération en a pris le contrôle.
C'est une tuerie. On se tue. Hein. Les journalistes qui ont accepté ça se tuent les uns les autres dans des enjeux de pouvoir. Au Monde, ça a été une vraie tuerie. Et ensuite, les capitalistes eux-mêmes se tuent. Regardez ce qui se passe entre Monsieur Pigas et Monsieur Niel. Donc, nous avons voulu à la fois faire trois choses, je résume, trois choses. Premièrement, sanctuariser le capital, le rendre incessible, non spéculable, inviolable, le mettre dans un coffre-fort. C'est le premier élément.
Alors, deuxième, ce coffre-fort,
Deuxième objectif, et après, je réponds à votre question. Deuxième objectif, trouver une structure où on peut faire remonter des réserves qui sont là, en cas de soucis, de malheur, uniquement pour aider Mediapart, sans enjeu de pouvoir, sans enjeu éditorial. Et troisièmement, on en parlera, je l'espère, aujourd'hui c'est en plus la journée de la presse en ligne, à partir du succès de Mediapart, faire quelque chose à nouveau utile à tout le monde, qui ne soit pas que pour Mediapart, qui soit pour l'ensemble
de la
profession.
Alors, votre exemple, c'est donc le Scott Trust, qui détient le Guardian, qui est un grand, grand quotidien, on va dire, de centre-gauche, comment vous le définiriez.
Le Scott Trust défend Progressive Journalism. Oui. On a essayé de traduire ça, ça veut dire un journalisme, le mot progressiste en France est un peu galvaudé ces temps-ci, on va dire plutôt un journalisme qui respecte au fond les droits fondamentaux, les valeurs démocratiques, l'égalité des droits, ce ne sont pas des mots creux par les temps qui courent.
Alors le Scott Trust est très riche, Edoui Plenel.
Il est riche d'autres, c'est un modèle, en clair l'histoire du Guardian est totalement dans la culture liberal, comme on dit, libérale anglo-saxonne, donc ça a été créé dans les années 30 par la famille Scott, une famille écossaise, etc. L'important, c'était de trouver dans le cadre français quelque chose qui était dans le même esprit, c'est-à-dire une structure qui n'a aucun pouvoir sur le Guardian, respecte totalement
alors,
la vie
éditoriale. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que le Scott Trust a le pouvoir de nommer le directeur de la rédaction du Guardian, et parfois il y a des bras de fer hein, entre le Guardian et le Scott Trust.
On va justement plus loin. Pas de pouvoir éditorial.
Pas de pouvoir de nomination.
Simplement, retenir, ils disent même perpetuity, c'est-à-dire défendre à perpétuité, donc c'est pour ça que nous on a traduit ça par irréversible, rendre irréversible l'indépendance de Mediapart, et faire des réserves, dans le cas du Guardian, ils ont failli tomber, avoir une grande crise, et le Scott Trust, de manière à mon avis excessive, pendant des années, a mis 30, 40, 50 millions de livres pour combler des déficits d'une stratégie qu'ils ont remise en cause.
Un dernier mot, c'est important, une mission d'intérêt général, ce fonds que vous allez créer, cette fondation d'intérêt public.
C'est créé. En clair, ça s'est passé mardi. Désormais, il y a un fonds pour une presse libre. Donc, qui relève de ce qu'on appelle les fonds de dotation en France, ça existait pour la culture, souplesse juridique des associations, souplesse financière des fondations. Et ce fonds, donc, à titre secondaire, via une société pour la protection de l'indépendance de Mediapart, depuis mardi dernier, contrôle et propriétaire de 100% du capital de Mediapart.
Et ce fonds peut recevoir des dons, c'est ça que vous devez expliquer.
Sa mission principale n'est pas de contrôler Mediapart au niveau économique, de garantir ou de protéger plutôt que contrôler Mediapart. Sa mission principale est... Aujourd'hui, ça se passe indépendamment de Mediapart. Nous, les fondateurs de Mediapart, nous ne sommes pas dans ce fonds. Il vit sa vie. Dans les membres de son conseil d'administration, il y a Christine Lazerge, l'ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a Dominique Cardon, un sociologue du numérique. Et donc, ce fonds qui est éligible à des dons défiscalisés, c'est-à-dire 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises, fonds pour une presse libre. Son objectif, et n'hésitez pas à contribuer, c'est d'aider, de défendre, de promouvoir le pluralisme de l'information, la liberté de la presse et l'indépendance du journalisme. Et il n'a pas le droit d'aider financièrement Mediapart. En revanche, Mediapart doit statutairement renvoyer un peu de ses bénéfices au fond, dans le cadre de l'intérêt général, pour l'ensemble de la profession et de la presse.
Merci beaucoup, Edoui Plenel. Affaire à suivre, je dirais. Ce serait fort intéressant d'en faire le bilan dans quelques mois.
Mais le bilan sera fait tous les ans. On est obligé d'être transparent. Il y aura un site internet avec tous les rapports annuels de ce fonds. C'est une obligation légale. Et nous, vous savez, nous publions Mediapart, tous nos comptes, chaque année.
Merci beaucoup. Bonjour Ali Réveillé.
Bonjour Saint-Devillers. Nous verrons ce matin quelles sont les influences multiples cosmopolites qui ont construit notre cuisine quotidienne nationale. 01 45 24 7000.